Les yeux au ciel. Les yeux au ciel avec Anne-Françoise Marie pour découvrir les merveilles des étoiles.
Allons aujourd'hui tout au bout de notre système solaire pour observer Neptune, la planète la plus éloignée du Soleil. Alors peut-être vous êtes en train de vous dire, mais c'est pas Neptune, la planète la plus éloignée du Soleil, c'est Pluton, non ? Ben, en effet, à sa découverte en 1930, Pluton était considéré comme la 9e planète du système solaire. Seulement, à la fin du 20e siècle, au début du 21e, de plus en plus d'objets similaires ont été découverts dans le système solaire externe, en particulier Eris, alors estimé légèrement plus grand et plus massif que Pluton. Cette évolution amena l'Union astronomique internationale à redéfinir la notion de planète. Une planète, c'est un objet céleste, sphérique, ayant éliminé tout corps rival se déplaçant sur son orbite ou sur une orbite proche. Et ça, c'est pas tout à fait le cas de Pluton, qui depuis est qualifié de planète naine. Mais revenons à Neptune, redevenue la planète la plus éloignée du Soleil. Elle orbite à 4,5 milliards de kilomètres du Soleil. Elle orbite autour du Soleil tous les 170 ans. Elle a une taille comparable à Uranus et est classée parmi les géantes de glace. Neptune est avant tout originale par la façon dont on l'a découverte. En effet, elle n'est pas visible à l'œil nu. Il a donc fallu l'invention du télescope pour pouvoir l'observer. Pourtant, cette découverte se démarque de celle des autres planètes car elle est avant tout mathématique. Elle est faite par le calcul à partir de la trajectoire et des caractéristiques d'Uranus. Ainsi, le télescope n'a servi qu'à confirmer cette découverte. Revenons au début de l'observation télescopique. Revenons à notre célèbre Galilée. Plusieurs astronomes, avant sa découverte formelle au XIXe siècle, observent Neptune, sans pour autant se douter qu'il s'agit d'une planète. Ainsi, les destins astronomiques de Galilée montrent qu'il observe Neptune le 28 décembre 1612, alors qu'elle apparaît en conjonction avec Jupiter. La planète est alors répertoriée comme une simple étoile fixe. Il la remarque de nouveau dans le ciel un mois plus tard, 28 janvier 1613. Et une étude de 2009 avance qu'il a même constaté qu'elle avait bougé par rapport à une étoile voisine. Ainsi, c'est peut-être pas une étoile fixe. Mais pour autant, Galilée ne tire aucune conclusion et ne l'évoque plus par la suite. Comme il pensait alors n'avoir observé qu'une étoile, il n'est pas crédité de sa découverte. Neptune est également observée par Joseph de Lalande en 1795, par John Herschel, le fils de William, qui a auparavant découvert Uranus, en 1830, sans qu'il ne note non plus rien de particulier, la prenant pour une étoile. Les mathématiciens commencent dès 1788 à observer que la planète Uranus, récemment découverte par William Herschel, ne présente pas une orbite semblant se conformer au modèle existant. Ainsi, Alexis Bouvard, astronome français, observe de tels écarts qu'il émet l'hypothèse qu'un corps inconnu perturberait l'orbite par interaction gravitationnelle. John Adams, jeune astronome anglais qui a tout juste fini ses études, utilise la loi de Titus-Bode pour déterminer la distance de cette hypothétique planète au Soleil. La loi découverte par l'allemand Titus et popularisée par Bode est une relation empirique trouvée entre le rang des planètes dans le système solaire et leur distance au Soleil. En prenant la suite 1, 3, 6, 12, 24, etc., on double chaque terme et on lui ajoute 4 et on divise par 10. On trouve une approximation de la distance entre la planète et le Soleil, exprimée en unité astronomique, soit la distance de la Terre au Soleil. Je vous donne un exemple, par exemple pour Mercure, c'est la première planète du système solaire. Donc on fait 1 plus 4 divisé par 10, ça donne 0,4. La valeur exacte étant 0,39 unités astronomiques. Pour la Terre, on devrait trouver 1, puisque la formule de Titus-Bode donne le résultat en unité astronomique, qui est la distance de la Terre au Soleil. La Terre, c'est la troisième planète. Dans la suite, on prend 1, 3, 6. 6 plus 4 divisé par 10, c'est bien égal à 1. Alors, pour ceux qui calculent très très vite, vous allez me dire « Oui, mais ça ne marche pas pour Jupiter, ni pour les planètes suivantes. » En effet, pour trouver la distance de Jupiter au Soleil, 5 unités astronomiques à peu près, il faudrait que Jupiter soit la sixième planète et non pas la cinquième. Et de même, pour toutes les autres, elles sont décalées. Mais je vous répondrai qu'à la distance donnée pour la cinquième planète, par la formule, on trouve la planète naine Cérès et la ceinture d'astéroïdes. Et d'après cette loi, il devait donc y avoir une planète à 19,6 unités astronomiques du Soleil. En parallèle de l'anglais Adams, le français Duverrier, mathématicien spécialisé en mécanique céleste, motivé par François Arago, le très actif directeur de l'Observatoire de Paris, calcule lui aussi, mais sans avoir connaissance des travaux d'Adams, les caractéristiques de cette planète inconnue. S'engage alors une compétition franco-britannique sur la découverte de la planète. Les Anglais, de leur côté, avec les calculs d'Adams, chargent James Challis d'observer la planète au télescope. Adams prévoyait une magnitude de 9, mais mais étant très prudent, il suggère de chercher jusqu'à une magnitude de 11. Cette méthode demande à Challis beaucoup plus de temps d'observation, d'autant plus qu'il ne dispose pas de carte de la zone à observer très très fiable. Challis commence ses recherches le 1er août 1846 et parcourt le ciel en août et en septembre, sans réussir à identifier Neptune. Côté français, Le Verrier a bien du mal à convaincre ses compatriotes astronomes de valider ses calculs. Il se tourne alors vers son ami, l'astronome prussien Galle, à l'observatoire de Berlin, lui fournissant la position supposée de Neptune par lettre le 23 septembre 1846. La planète est observée le soir même, à seulement 1 degré de la position prévue. Il observe à nouveau le lendemain pour vérifier si l'astre a bien bougé, avant de confirmer qu'il s'agit bien d'une planète. Outre-Manche, la déception est grande. Challis, en revoyant ses notes, découvre qu'il a observé Neptune deux fois, le 4 et le 12 août, mais qu'il ne l'a pas reconnue comme une planète, car il manquait une carte stellaire bien à jour, et qu'il a été distrait par son travail simultané sur les observations de comètes. Une nouvelle bataille sur la paternité de la découverte se lance alors entre les deux pays. Adams et Le Verrier se rencontrent en 1847, convenant de ne pas trancher et d'attribuer un crédit conjoint à la découverte. Ils entretiendront par la suite une relation amicale. Comme quoi l'astronomie, ça peut aussi passer par-dessus des grandes rivalités nationales. Le choix du nom de la planète est tout à fait rocambolesque. Alors je vous l'épargne, sachez juste que les noms Janus, le dieu romain des commencements et des fins, Océanus, le titan fils d'Uranos, ont été proposés. Mais finalement, c'est Neptune, le roi des mers et des océans, qui a été choisi. Peut-être la couleur bleue de la planète y a été pour quelque chose ? Alors vous ne pourrez pas voir Neptune à l'œil nu, car malgré un diamètre 4 fois plus important que celui de la Terre, elle est tellement lointaine qu'elle n'atteint qu'une magnitude de 8. Mais avec des lunettes ou un télescope, voire avec une très bonne paire de jumelles, c'est un défi tout à fait intéressant. Première étape, obtenir une carte du ciel pour savoir où chercher. Pensez à ce pauvre Challis qui l'a confondu avec une étoile à cause de mauvaises cartes. Neptune bouge très lentement, donc pas de panique. On peut facilement l'observer plusieurs jours de suite sans savoir à trop la chercher. Ensuite, il est plus intéressant d'avoir un assez fort grossissement, de l'ordre d'une centaine de fois, pour commencer à la distinguer d'une étoile. Ce qui suppose d'avoir des très bonnes conditions atmosphériques pour ne pas être gêné par les turbulences. En dessous d'un télescope de 200 mm, vous verrez un petit disque. Mais à partir de 200, vous pourrez profiter de sa spectaculaire couleur bleue, ainsi que de son satellite Triton. Pour cela, on prépare son observation à l'aide d'un logiciel, comme par exemple Stellarium. Vous recherchez la planète, vous paramétrez la date et l'heure probable d'observation, car le déplacement de Triton est perceptible d'heure en heure. Vous zoomez assez fortement pour faire apparaître le satellite, tout en gardant une ou deux étoiles environnementales pour bien vous orienter. Il ne vous reste plus alors qu'à comparer cette simulation avec ce que vous voyez dans l'oculaire, en tenant compte des inversions de votre optique pour identifier Triton parmi les étoiles. En fonction de l'instrument que vous utilisez, l'image en effet peut être retournée. Avec une lunette, elle est retournée de gauche à droite. Avec un télescope, elle est retournée de bas en haut. Il faut bien en avoir conscience quand on tente de trouver un élément à partir d'une carte. Ou alors, il faut retourner sa carte pour la voir alignée avec ce qu'on peut voir. Un petit peu comme une carte IGN qu'on oriente selon la direction dans laquelle on marche. Revenons à notre planète Neptune. C'est une géante de glace. Elle est constituée d'un noyau de roche métallique très chaud qui atteindrait une température de 8000 degrés, soit plus que la température interne de la Terre ou même que la surface du Soleil. Les modèles actuels proposent, si on simplifie, autour du noyau une couche médiane allant de glacé à liquide, formée d'eau, de méthane et d'ammoniac, et une atmosphère d'hydrogène et d'hélium. Les scientifiques proposent que cette atmosphère soit totalement ionisée et que le méthane y soit pyrolysé en carbone sous forme de métal ou de diamant. Le méthane se décompose en carbone et en hydrocarbures. Ensuite, la précipitation du carbone libère de l'énergie, entraînant des courants de convection qui libèrent les hydrocarbures dans l'atmosphère. Ce modèle expliquerait la présence d'hydrocarbures diverses dans toute l'atmosphère de Neptune. En 2017, des nouvelles expériences simulant les conditions présumées régner vers 10 000 km sous la surface d'Uranus et Neptune viennent conforter ce modèle en produisant des diamants de taille nanométrique. Ces conditions de haute température et de pression ne peuvent pas être maintenues plus d'une nanoseconde sur Terre, mais dans les conditions régnant dans les atmosphères de Neptune et Uranus, les nanodiamants auraient le temps de croître pour donner des pluies de diamants. Il est également supposé que ce type de pluie de diamants se produit sur Jupiter et Saturne. Aussi, le sommet du manteau peut tout à fait être un océan de carbone liquide dans lequel des diamants solides flottent. Neptune a donc été découverte sur la base des perturbations de l'orbite d'Uranus, mais certains scientifiques avaient émis l'hypothèse qu'une planète ne suffisait pas à elle seule à expliquer l'écart. Le 17 novembre 1834, Peter Andreas Hansen, le directeur de l'observatoire de Seeberg, suggéra qu'un seul corps ne pouvait pas expliquer correctement les mouvements d'Uranus. Il théorisa que deux planètes se trouvaient au-delà d'Uranus. En 1879, Camille Flammarion nota que les comètes 1862-3 et 1889-3 avaient respectivement une aphélie de 47 et 49 unités astronomiques. Alors, ça vous dit peut-être rien, mais en fait, ça suggère une présence d'une autre planète inconnue qui les aurait entraînés dans une orbite très elliptique. L'astronome George Forbes conclut sur cette base que deux planètes devraient exister au-delà de Neptune. En se basant sur le fait que quatre comètes possédaient une aphélie à environ 100 unités astronomiques, six autres une aphélie à peu près 300 unités astronomiques, il calcula les éléments orbitaux d'une hypothétique paire de planètes transneptuniennes. La concordance de ces éléments avec les conclusions faites indépendamment par un autre astronome, David Peck Todd, suggéra à beaucoup qu'il pourrait être valide. Seulement, les sceptiques firent valoir que les orbites des comètes impliquées étaient encore trop incertaines pour produire des résultats significatifs. Plusieurs scientifiques se lancent donc dans des recherches systématiques au début du XXe siècle. Percival Lowell, connu comme l'un des principaux partisans des canaux martiens, construisit un observatoire privé à Flagstaff, en Arizona. Il appela sa planète hypothétique la planète X. Il effectua plusieurs recherches pour la trouver, sans jamais y parvenir. En décembre 1928, un jeune garçon de ferme et astronome amateur du Kansas, Clyde William Tombaugh, fut engagé pour continuer les recherches de Lowell, décédé 12 ans plus tôt. Tombaugh démarra son travail en avril 1929 et se lança dans une série de clichés qui prit fin le 29 janvier 1930. Le 18 février, après avoir examiné et comparé des centaines de plaques, il mit en évidence une nouvelle planète en comparant deux photographies prises le 23 et le 29 janvier. La découverte sera confirmée un mois plus tard et la planète sera nommée Pluton. Je vous reparlerai de l'histoire de cette planète devenue planète naine. Je vous reparlerai de Pluton dans un prochain épisode. D'ici là, je vous propose de fureter un petit peu sur Internet pour trouver des belles images de Neptune et admirer sa belle couleur bleutée.